Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, on est ensemble pour le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Virginie Leguet, chef adjointe du service politique à Paris Match. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Emmanuel Duteil en charge du service économique d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et David Revaud-Allonne, responsable du service politique au Journal du Dimanche.
Bonsoir Julien.
On est très corporate ce soir, on est dans la maison. Merci de votre présence. Merci de votre présence à tous les trois. Alors ce soir, pour débuter, on s'intéresse au vrai bilan de la suppression de l'ISF. Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari, comme le disent certains, cadeau fait aux riches pour certains, indispensable rééquilibrage de la fiscalité du capital pour les autres. Eh bien, pour la première fois, on connaît désormais le bilan. Ce sont les conclusions du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité. On y apprend que cette suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax à 30% sur les revenus du capital a profité a priori aux plus riches, n'a pas dopé l'investissement, mais a évité l'exil aussi des plus riches à l'étranger. On va donc en parler. D'abord, je vous propose d'écouter ce que disait à l'époque Emmanuel Macron.
Comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés.
Voilà, pas un cadeau pour les plus fortunés, mais en un an quand même, la fortune des 0,1% des Français les plus riches est accrue d'un quart. David Revaud-Allonne, est-ce que c'est un échec, cette suppression de l'ISF ?
Moi, je ne me prononcerai pas sur l'aspect économique. D'ailleurs, le comité lui-même reste assez flou. Hein.
Oui.
Il avait expliqué l'année dernière qu'il fallait plus de temps pour évaluer l'effet sur l'économie, et en particulier sur l'investissement, et il n'avance pas beaucoup plus cette année. Je resterai sur le terrain uniquement politique, pour dire que là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et en termes d'efficacité, puisque c'est votre question sur le bilan en positif ou en négatif de Macron, c'est une pierre très lourde dans son bilan. Pourquoi ? C'était une des premières décisions, souvenez-vous, une décision extrêmement symbolique qui relevait de la philosophie macronienne de l'époque, qui était celle de l'émancipation par le travail d'une part et de la libération de l'économie et de l'investissement d'autre part. Aujourd'hui, on voit que ça reste finalement dans l'esprit
et
de la gauche.
Valu, qui lui avait valu l'étiquette de président des riches.
Voilà, absolument. C'est là où je voulais en venir. Ça reste un peu le péché originel du point de vue de la gauche et même de l'aile gauche de la majorité, le péché originel du macronisme, puisque, effectivement, ça lui avait valu cette étiquette que vous rappelez, le président des riches, qui fait évidemment penser à ce qu'avait inauguré Nicolas Sarkozy avec le paquet fiscal au début de son quinquennat, la fameuse loi TEPA, qui là aussi l'avait encore classé, Nicolas Sarkozy, dans la catégorie des présidents des riches. Donc là, on est dans la pure politique, la pure polémique politique. Je crois qu'il faut déconnecter ce sujet. Peut-être que ça lui coûtera cher, peut-être qu'aux prochaines élections, c'est quelque chose qui se pèsera lourd dans son bilan. Je parle bien sûr des présidentielles.
Surtout que le contexte économique a changé avec la crise du Covid.
En plus, voilà, vous avez raison, il y a un contexte qui a changé, mais je crois qu'il faut déconnecter absolument ça de la question de l'efficacité économique et celle de l'investissement.
Alors moi, je me suis quand même plongé dans le rapport et je réagis à ce que vous disiez sur l'investissement. Il est quand même indiqué qu'a priori, il n'y a pas eu d'effet sur l'investissement, donc sur l'économie réelle, Emmanuel Duteil.
Oui, mais le rapport dit quand même globalement, et vu que vous l'avez épluché, je suis sûr que vous avez vu ça aussi, que c'est très compliqué d'avoir un avis circonstancié sur tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'au minimum du minimum, si ça n'a pas permis d'avoir des investissements, ça a permis de faciliter la venue de sièges sociaux étrangers ou des décisions d'investissement en France, qui se seraient peut-être faites sans cela, mais pas obligatoirement dans la même ampleur. Tout le monde dit que la France, aujourd'hui, est plus attractive. Et c'est pour ça que, principalement, Bercy en fait un fer de lance de son attractivité et ne veut surtout pas revenir sur cette réforme. Et s'il n'y a pas eu d'investissement, il y a quand même le côté que ça sert les rentrées fiscales. Parce que, par exemple, on voit que les plus riches ont eu beaucoup plus de dividendes qu'il n'y aurait eu sans cette réforme.
Hausse de 60%.
Voilà, hausse de 60%. Mais ils sont taxés sur ces... Et quand vous regardez, c'est écrit là aussi dans le rapport de France Stratégie, qui est un organisme officiellement indépendant parce qu'il dépend de l'État, ils disent que l'un dans l'autre, ça a permis quand même de rapporter une bonne partie de la perte fiscale générée par l'arrêt de l'ISF.
Et puis il y a un autre aspect, c'est le retour des exilés, Alors, on reste dans des petits volumes. Hein. 250 retours en 2018 contre 160 départs sur la même année. Donc, pour la première fois, l'équilibre s'inverse. Je vous rappelle quand même que sous François Hollande, alors, il y avait une taxation très forte. Il y avait eu les 75%, 70%.
Et puis, il y avait une taxation du capital aussi.
On avait enregistré jusqu'à 900 départs de contribuables fortunés en une année. Voilà. Virginie Leguet.
Oui, alors moi je voulais faire une petite remarque sur ce que vous disiez sur le fait que ceux qui ont perçu des dividendes, et je vais donner des chiffres que vous avez certainement, je crois que les dividendes se montaient à 14,3 milliards en 2017 et à 23,4 milliards en 2018. Ceux qui ont perçu ces dividendes, ils ont aussi bénéficié de la flat tax. Flat tax qui faisait partie de la même réforme, mais flat tax qui, me semble-t-il, modère singulièrement.
À 30%, oui.
Voilà. Et donc,
les
en fait,
du capital.
En fait, ceux qui ont touché ces dividendes ont été moins imposés et finalement, les plus riches sont devenus encore plus riches. Il faut quand même rester très clair là-dessus. Et ça concerne une petite fraction des Français, mais ça concerne une fraction des Français. Et alors là, je pense qu'il n'y a pas de choses neutres dans ce calcul. Ça concerne une petite partie des Français qui sont acquis à Emmanuel Macron et qui lui resteront acquis lors de la prochaine présidentielle. Donc sur ce coup-là, c'est gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal. En revanche, je me souviens du débat qui avait présidé à l'élaboration de cette réforme, qui était une des premières réformes du quinquennat, qui était, oui, ça va inciter ceux qui vont bénéficier de ces économies à investir. Mmh. Et certains avaient même imaginé qu'on pouvait conditionner cette réforme à des investissements. Ça n'a pas été fait du tout. Ceux qui ont bénéficié de ces allègements n'ont été conditionnés à rien du tout. Donc
mais on ne sait pas si l'investissement n'aurait pas été plus faible.
On ne le sait pas. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'Emmanuel Macron a simplement changé... Attendez, je termine juste, après j'ai fini. Emmanuel Macron a simplement changé l'ISF en IFI. Et il a singulièrement, et là les chiffres sont là, amélioré la situation des très riches. Ça, on peut le dire, sans leur demander aucune contrepartie. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
On se retrouve dans une fraction de seconde et on continue d'en parler avec la dimension politique, comme l'évoquait à l'instant David. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours avec les grandes voix Virginie Leguet, Emmanuel Dutheil et David Revaud-Dallone. Et on évoque le vrai bilan de la suppression de l'ISF 3 ans après. Bien, ça y est, des chiffres ont été publiés, notamment par le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité. Alors, s'il y a débat sur la théorie, la fameuse théorie du ruissellement qu'avait vendu Emmanuel Macron sur l'ensemble de l'économie, il y a aussi, je le disais tout à l'heure, David, le contexte qui a changé aujourd'hui. Des inégalités de plus en plus fortes, 1 million de chômeurs supplémentaires attendus d'ici à la fin de l'année, 1 million de pauvres de Français qui vont passer sous le seuil de pauvreté d'ici à la fin de l'année. Est-ce que ça rebat les cartes d'une grande réforme fiscale pour plus, allez, de justice et d'égalité?
Je crois que d'ici la fin du quinquennat, ça sera compliqué de faire une grande réforme fiscale, ça sera même compliqué de faire une grande réforme tout court, vu le contexte politique. On voit que la réforme des retraites, par exemple, elle est quand même largement menacée. Le contexte, vous avez raison, tous les fondamentaux du macronisme ont été bousculés. On avait un Bruno Le Maire qui était quand même, souvenez-vous, à l'époque où il était candidat, le ministre de l'économie qui était candidat à la primaire de la droite, qui avait un programme ultra-libéral. Il proposait de se sabrer des centaines de milliers, peut-être même 1 million, si ma mémoire est bonne, de postes de fonctionnaires d'État et territoriaux. Aujourd'hui, c'est presque Che Guevara. Hein. On arrose à tout va. Le budget de le plan de relance, c'est 100 milliards. On ne va pas revenir là-dessus. Mais on aide aussi bien les entreprises que les salariés, le chômage partiel, etc. Je veux dire, là, le coup, c'est
l'économie open... subventionnée. Enfin, c'est du jamais vu.
Absolument. C'est open bar. Ouais. Donc, effectivement, le paradigme, le contexte, comme vous le disiez, a totalement changé. En revanche, je le répète, mais cette première affaire de l'ISF, de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, elle reste profondément incrustée dans la rétine des Français. De même que cette théorie du ruissellement qui en est venue à incarner finalement un président un peu hautain, qui n'a pas le sens des réalités, qui est au-delà du président des riches, un président coupé du pays, coupé de la société.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'au-delà d'une grande réforme d'ici à la fin du quinquennat, il y a une campagne présidentielle qui s'annonce.
Voilà.
Et dans le programme qu'Emmanuel Macron, car il sera candidat évidemment, dans le programme qu'Emmanuel Macron va devoir vendre d'une certaine manière aux Français, est-ce qu'il y aura l'idée d'une refonte aussi de la fiscalité, réforme de l'impôt sur les successions, une taxation plus forte des hauts revenus par exemple?
À ce stade, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, tout simplement parce que tout ce qu'on est en train de dépenser, ça va être très compliqué. Il va falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Oui. Mais vous avez remarqué qu'à aucun moment, le gouvernement, cette année, dans ce projet de loi de finances, ne parle de hausse d'impôts.
Ni de réduction de la dépense publique.
L'année prochaine, on a une élection présidentielle. Donc, ça ne va pas augmenter. Juste un dernier petit point. Je reprends ce que disait Virginie Le Guet tout à l'heure. Sur le faible nombre de gens qui en ont bénéficié, évidemment, de cette affaire d'IFI, ça fait effectivement des gens qui soutiendront Macron et qui voteront Macron, mais ça fait pas beaucoup de gens qui soutiendront Macron, alors qu'à l'inverse, les gens ulcérés par cette mesure, sur le plan symbolique, il y en a un paquet.
Emmanuel,
oui, mais ce qui est important sur la question de la fiscalité, c'est qu'on sait que, et s'il y a un gros problème de ruissellement, même si personne n'est capable de dire que cette théorie du ruissellement existe ou pas, ou fonctionne ou pas, c'est qu'en France, on a toujours peur qu'on ce que l'on nous donne, on nous le reprenne d'une autre main. Toutes les études empiriques le disent, et la direction du Trésor en a même fait là, une étude économique, c'est-à-dire que 2/3 de ce que vous avez comme gain fiscal, vous ne le dépensez pas, vous l'épargnez, parce que vous avez tout simplement peur, et il faut 3 à 4 ans pour que les gens véritablement dépensent. Et là, inévitablement, si on en revient à la question de l'ISF, je suis certain qu'une partie des gens qui ont, oui, vous avez raison, bénéficié d'une énorme somme d'argent, se sont dit, bon, on va le mettre de côté, on ne va pas l'investir tout de suite, parce qu'ils vont bien trouver le moyen de nous en reprendre d'une main ou de l'autre. Et ça joue. Et sur l'ISF, il y a un point qu'il faut quand même jamais oublier.
Oui.
On a perdu des dizaines d'entreprises de taille moyenne ou de taille intermédiaire parce qu'on ne pouvait pas faire de succession au sein des familles, parce que ça coûtait une fortune quand on transmettait ou quand on passait. Et la réforme de l'ISF était aussi liée à tout cela. Et c'est sûr que, moi je comprends les gens qui tapent sur la mesure, parce que c'est totalement incompréhensible qu'on ait supprimé ça pour le grand public. C'était 3 milliards, c'était normal que les riches payent. Quand on regarde comme ça, c'est tout à fait normal.
Non mais
que les riches payent et peut-être doivent payer plus, là-dessus, il n'y a sûrement pas de débat. Mais il faut trouver un impôt moins idiot, alors même si le gouverneur de la Banque de France dit « vous me trouverez un impôt qui n'est pas idiot », mais un impôt moins idiot que ce que pouvait être l'ISF.
Virginie.
Oui, et je pense que parmi les observations qui ont été soulignées dans ce rapport, il est dit que la France, qui se distinguait par une imposition du capital plus élevée que l'autre pays, que tous les pays de l'OCDE, est rentrée dans la norme.
Mais, on est juste dans la moyenne. Hein,
oui, exactement. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit un argument neutre pour Emmanuel Macron. Lui, il considérait que les gens étaient trop imposés sur leur capital. Sa logique, son ADN politique, son corpus politique, le poussait à le dire, à le penser. Aujourd'hui, il estime qu'il est
parce qu'il devait faire partie de ces gens qui sont au démarrage de l'ISF et pour qui c'est le plus dur.
En dehors même de sa situation personnelle, je pense que ça fait partie de ce qu'il est, de ce qu'il pense et de son vraiment de sa façon de penser la politique. Est-ce que ça va lui nuire en 2022? Moi, je pense que les gens qui étaient hostiles à cette réforme ont été déjà hostiles à Emmanuel Macron lorsqu'il s'est présenté en 2017 et n'iront ni grossir,
oui, David,
ni affaiblir ses rangs.
Venir.
En tout cas, vous verrez, je suis sûr que dans les jours et les semaines qui viennent, ce rapport, à mon avis, va faire beaucoup de bruit.
Oui, l'électorat qui va protester, c'est déjà un électorat qui a fait sécession avec Emmanuel Macron, qui ne le soutient pas et qui ne l'aime pas. Donc ça ne changera pas grand-chose.
Il sera uniquement conforté dans ses convictions par ces éléments du rapport.
Exactement.
On va se détendre et se relaxer, puisqu'on va parler du cannabis thérapeutique dans quelques secondes. 18h47, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours ensemble avec les grandes voix ce soir. Et on parle à présent du cannabis thérapeutique. C'est parti, pour ou contre? Cette fois, le décret tant attendu par les patients vient d'être publié. Une expérimentation va être lancée. Cela concernera 3000 malades et débutera au plus tard le 31 mars prochain. L'idée est en fait de permettre à ces malades de mieux supporter la douleur liée aux soins de certaines maladies graves, le cancer ou la sclérose en plaques par exemple. Et pourtant, au gouvernement, cette autorisation fait encore débat, à l'image de Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté.
Moi, j'y suis opposée. C'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Je trouve qu'on prend beaucoup trop à la légère les questions de consommation des drogues dites douces, et même cette appellation ne me convient pas.
Alors là, pardon, hein, Mais on est quand même un peu dans l'idéologie, non? Parce que le cannabis thérapeutique, c'est pas le cannabis récréatif.
Je ne sais pas
c'est
ce
autorisé
que...
quasiment dans tous les... J'ai été regardé dans tous les pays d'Europe, et l'idée c'est évidemment...
22 sur 27.
L'idée c'est évidemment... Oui, et 30 pays dans le monde. Donc l'idée c'est évidemment de soulager, hein, c'est pas fumer pour s'amuser, l'idée c'est vraiment de soulager les malades qui sont dans des conditions très difficiles pour pouvoir amortir un petit peu la douleur. Voilà, donc comment vous interprétez cette déclaration de Marlène Schiappa
qui veut commencer Virginie Leguet ? Je ne sais pas si elle a été confrontée dans sa vie à quelqu'un qui souffrait de maladies très graves, dont vous avez cité d'ailleurs la liste. Je ne sais pas si elle a vécu de près la douleur que peut provoquer chez certains malades des affections très graves, dont des cancers, dont les conséquences des chimiothérapies. Moi, je l'ai vécu et je peux vous dire que consommer du cannabis fait du bien à ces gens-là. Ça soulage leur douleur, ça soulage leur peine. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un caprice, il ne s'agit pas de gens qui veulent juste fumer un joint pour fumer un joint. D'ailleurs, je crois que fumer du cannabis sera interdit.
Oui, c'est sous forme d'huile, de gélules et de fleurs séchées vaporisées.
Exactement. Et moi, la seule question, pour vous dire la vérité, que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que l'huile, les fleurs séchées seront aussi efficaces que réellement le cannabis fumé pour des gens qui parfois sont victimes de douleurs que les médicaments ne peuvent pas toujours soulager. C'est bien de ça dont il s'agit de rien d'autre.
Parce que la vérité dans la déclaration de Marlène Schiappa, David Revaud-Allonne, c'est que les politiques craignent que cela ouvre en fait la voie à la légalisation du cannabis récréatif. Mais c'est deux sujets totalement différents.
Bien sûr, la légalisation ou la dépénalisation du cannabis en général, non pas thérapeutique, est le diable pour tous les partis politiques. Et là encore, vous citiez la différence entre les législations au niveau européen. Là encore, la France a une des législations les plus répressives d'Europe.
Et pourtant, les Français sont les plus consommateurs en
Absolument.
Europe.
Absolument. Et aucun politique, je crois, même pendant la prochaine campagne de 2022, je suis prêt à prendre le pari avec vous, Julien, et à vous payer un... Non pas un pétard, mais un verre, si jamais...
on a le droit, les corps sont fermés, voilà, un restaurant.
En 2022, je crois que personne, aucun candidat ne prendrait le risque de plaider pour une dépénalisation ou une légalisation du cannabis récréatif. Cela dit, le son que vous venez de diffuser de Mme Schiappa est assez...
Il est peut-être incomplet,
mais il est assez éloquent, je trouve, sur effectivement la confusion et le fait que ce gouvernement, comme les précédents et comme la majorité des formations politiques en France, ne veulent pas entendre parler de cannabis, qu'il soit thérapeutique ou récréatif. Et j'en veux pour preuve, le cheval de bataille numéro un de notre nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sont les stupéfiants, et en particulier le cannabis. Il a mis le paquet, il multiplie les opérations, fait beaucoup de communication là-dessus. Donc là, on est sur un gouvernement qui, très clairement, joue la carte de la répression.
Qui a instauré l'amende forfaitaire à 200 euros.
Mais on est sur le cannabis récréatif. Alors que là, le cannabis thérapeutique, pardon, mais c'est de la santé publique.
Bien sûr.
Quand vous lisez ce qu'écrit, par exemple, le rapporteur général de la mission, il s'appelle Jean-Baptiste Moreau, il est LREM. Il faut que la France sorte de la préhistoire en matière de cannabis, dit-il, une plante qui est une drogue, mais qui peut aussi être un médicament pour certains patients.
Je ne sais pas si vous connaissez ce terme grec, mais le pharmacon en grec, et on se demande toujours ce qui est pire entre le poison et le remède. Et je pense que là, on est vraiment dans cette question. Moi, je vais me placer sur
un angle purement... D'ailleurs, à l'hôpital, on donne de la morphine à certains patients.
Moi, je vais me placer sur un angle purement économique. La France veut absolument devenir demain le leader mondial des médicaments personnalisés. C'est un des points extrêmement importants du plan de relance. Donc, je me dis que rien qu'avec ce prisme-là, on ne peut pas aujourd'hui s'interdire de tenter ce genre de choses, puisque s'il y a bien quelque chose qui permet de personnaliser les médicaments, c'est bien d'aller vers ce genre d'expérimentation. Parce que là, on parle d'une expérimentation. Hein. Sur 3000 patients, on n'est pas encore sur la généralisation. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une avancée si, effectivement, elle est très encadrée, elle est très contrôlée et qu'elle reste dans un territoire purement médical. Il faut aussi voir que souvent, ça va venir à la place de la morphine. A priori, la morphine, c'est pas non plus super bon, super facile à supporter. Donc moi, je trouve qu'il y a au moins l'idée d'essayer, si c'est extrêmement bien encadré et laissé dans quelque chose de purement thérapeutique, il y a un coup à jouer. Même d'un point de vue purement économique.
Si vous dites à Bruno Le Maire, il y a 3 milliards à gagner dans l'affaire, à mon avis,
si vous lui dites en ce moment, il y a 300 000 euros, je pense qu'il vous les prend.
C'est vrai qu'on cherche beaucoup des économies pour remplir la tirelire. Le rapport de Jean-Baptiste Moreau que vous citiez, Jean-Baptiste Moreau, il faut préciser pour les auditeurs qui sait, c'est un député La République En Marche, mais qui à l'origine est un agriculteur venu de la Creuse et qui considère, lui, qu'il y a sur le plan du cannabis thérapeutique, eh bien, un véritable champ de développement économique, sans mauvais jeu de mots,
c'est le cas de le dire.
voilà, dans son département, et qu'il y a là, effectivement, une potentielle manne. On voit qu'il y a beaucoup d'États, évidemment, je pense d'abord en premier lieu à certains États américains qui se sont lancés.
Mais qui ont beaucoup moins d'argent que prévu avec le récréatif. La Californie, c'est beaucoup moins intéressant que prévu.
Absolument, mais il y a quand même eu un potentiel de développement. Il y a quand même eu un marché qui n'existait pas avant et qui, voilà, effectivement, dans un contexte où on vient de dépenser 100 milliards dans le plan de relance et où le budget de l'État et le déficit sont en train d'exploser, voilà, il faut aussi se poser ces questions-là.
Bien, merci, merci à tous les trois d'avoir participé aux Grandes Voix du Vendredi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, on se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous, bien sûr, avec le journal de 19h, Isabelle Millet, et juste après, le débat du Club des idées dans les coulisses de la libération de Sophie Petronin. On vous dit tout. À tout de suite.